Ce matin, on est encore dans un hors-série. On est en train de relancer l'automne, revenir de vacances, n'est-ce pas? Et cet été, Dieu a déposé un passage sur mon cœur pendant que je prenais mes marches de prière. C'était plus facile pendant les vacances d'être vraiment assidu, partir, marcher longtemps. Je vous ai déjà partagé. Pour moi, la prière, l'intercession, des longs temps de prière, ça m'a pris des années à le découvrir, mais ça se fait bien en marchant. On dirait que mon esprit est disponible. Je divague moins, puis je ne somnole pas, évidemment. Je suis en train de marcher. Et pendant un de ces temps de prière, Dieu m'a donné un passage qui est venu m'encourager, qui est venu m'édifier. Puis je priais, puis je méditais sur ce passage-là. Puis j'ai dit, il me semble que l'Église a besoin d'entendre ça. Il me semble que les frères et sœurs ont besoin d'entendre ça. Alors, j'espère que vous allez être encouragés par ce passage. On va se concentrer sur un verset, mais Julie va venir nous lire vraiment un passage un peu plus long pour se placer dans le contexte. Et j'espère que ça va venir fortifier votre foi. Quels que soient les défis que vous êtes en train de traverser, quels que soient les défis qui sont devant nous comme Église, dans l'œuvre de Dieu, j'espère que ça va venir vous encourager. On va prier, puis Julie va venir nous faire la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, on est assemblés ce matin pour t'adorer. Et pour nous, Seigneur, t'adorer, c'est t'écouter, c'est te parler, c'est te chanter des louanges, c'est servir des gens, c'est servir les frères et sœurs, mais c'est aussi ce qu'on se prépare à faire, recevoir ta parole, Seigneur. T'écouter, nous parler à travers ta parole. On veut disposer nos cœurs à recevoir cette parole. Tout à l'heure, après la prédication, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Seigneur, viens disposer nos cœurs à t'entendre. Que ton esprit vienne illuminer, comme le dit l'apôtre Paul, illuminer les yeux de notre cœur afin qu'on soit attentif, mais non seulement attentif, que ton esprit vienne nous transformer, vienne faire bouger nos émotions, nos désirs, nos passions, afin vraiment que notre vision et notre cœur soient focussés sur toi, Jésus-Christ. Puisses-tu être glorifié ce matin, viens nous rencontrer, c'est en Jésus qu'on te prie, Père. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Bon matin. Donc, la lecture de ce matin se fera dans 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 58, dans la nouvelle édition de Genève. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 58. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture, « La victoire totale sur la mort a été remportée. » Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile.
Merci, Julie. Je vais dans un autre passage, juste avant, je vous cite un passage, dans l'Ecclésiaste. Dans l'Ancien Testament, on lit ceci, Ecclésiaste 1, versets 1 à 4, « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » Vanité des vanités. À quoi ça sert tout ça? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des fois des soupirs d'exaspération ou juste de fatigue? Vous dites, mais pourquoi je me donne autant de troubles? Ça vous arrive? Après une journée de travail, pas de reconnaissance au boulot. Les problèmes qu'on a essayé de solutionner aujourd'hui semblent être aussi gros demain, il n'y a rien de réglé. Ou avec les enfants, tu essaies d'enseigner à ton petit bonhomme d'aller sur le pot. Puis ça marche pas, puis ça marche pas, puis ça marche pas. Puis des fois, tu es comme, mais voyons donc les relations. Ça vous arrive des fois juste de devenir comme exaspéré, mais qu'est-ce que ça donne de mettre autant d'efforts? Je pense que ça arrive à tout le monde. Ça peut être le travail, ça peut être la maison, ça peut être avec ton conjoint, les enfants, les amitiés, dans ta foi. Tu pries depuis des années, puis à un moment donné, tu dis, mais qu'est-ce que ça donne de prier comme ça si je vois jamais l'exaucement à mes requêtes? Puis je sais pas combien de fois des gens viennent me dire, Dieu n'exauce aucune de mes requêtes les plus importantes. Et là, il y a une espèce de découragement qui peut s'installer. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça nous arrive à tous. Dieu m'a donné à moi, aucun mérite là-dedans, le privilège d'être optimiste. Les journées où je me réveille et je me dis, bouf, ça sera pas facile cette journée-là, sont rares. J'ai pas de mérite là-dedans. Je suis fait comme ça. Dieu merci. Je suis bien heureux de ça. C'est mon rôle à moi d'encourager ceux qui se lèvent et qui disent, oh là là, pas un autre. Je fais comme ça. Mais vous savez quoi, ça m'arrive à moi aussi, d'avoir des petits moments où je suis là puis je me dis, mais pourquoi je me donne autant que ça? Pourquoi est-ce qu'on travaille tellement fort? Est-ce que ça vaut la peine de travailler si fort que ça? Puis je vous donne un exemple très concret pour nous. On parlait ensemble, les pasteurs, cette semaine. Ramener les gens à l'église après la COVID, t'es là puis c'est un travail énorme. Puis il y a une belle assemblée ce matin. Mais je sais pas si vous êtes conscient, il y a à peu près 20% de moins de gens qui viennent à l'Église de l'Espoir le dimanche matin qu'avant la COVID. Et s'ajoute à ça le fait qu'il y a peut-être 60 ou 80 nouvelles personnes qui sont super heureuses d'être ici, mais faites des mathématiques un petit peu. Puis cette semaine, on était là, puis on dit c'est vraiment déstabilisant. C'est vraiment déstabilisant. Puis bon, ben des fois, c'est juste l'occasion de se remettre en question. Hein. Des fois, tu as comme un soupir, puis là, tu vois pas des fruits, tu vois pas des résultats, puis là tu es comme, mais qu'est-ce que ça donne? Puis c'est l'occasion de se remettre en question, c'est approprié de le faire. C'est correct, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut faire autrement. C'est l'occasion d'aller chercher la face de Dieu. Mais souvent, on sait qu'on est en train de faire les bonnes choses, et on a simplement besoin d'être encouragé afin de ne pas avoir cette pensée de l'Ecclésiaste de dire « vanité des vanités, tout est vanité ». Et on a besoin d'être encouragé par la parole de Dieu pour se rappeler qu'on n'est pas en train de travailler en vain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas si vous êtes dans un état de découragement. Je sais que certains ont été très affectés par les dernières années. Certains sont affectés parce qu'ils prient pour leur famille. Lorsque j'étais en train de marcher puis de prier, je pensais à plusieurs d'entre vous qui est à l'Église ici, vous servez avec nous depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Certains d'entre vous, je connais vos requêtes depuis 20 ans, 30 ans que vous priez, des requêtes qui ne sont pas encore exaucées. Je pensais à vous, puis j'ai dit, il me semble qu'on a besoin d'être encouragés, on a besoin que nos regards soient ramenés au bon endroit et qu'on soit fortifiés dans notre foi. Et l'apôtre Paul, dans cette lettre aux Corinthiens, une Église qui est peut-être l'Église la plus triste du Nouveau Testament, dans laquelle on peut vraiment connaître ses péchés, ses défis. Si cette lettre-là n'avait pas été là, on aurait eu une image du christianisme tellement idéaliste, tellement loin de la réalité de ce que peut vivre un chrétien. Cette lettre-là est extraordinairement utile parce que l'Église de Corinthe, à bien des égards, est totalement pathétique, littéralement pathétique et décevante. Puis c'est utile, ça, de voir à quel point cette nature pécheresse, cette vieille nature nous fait encore la guerre alors que nous voulons faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Notre vieille nature fait encore la guerre et cette lettre d'un Corinthien est utile parce qu'en plus de ça, on voit l'affection, on voit l'amour de Paul, on voit sa foi dans l'Évangile, sa confiance en Dieu pour faire le travail qu'il est en train de faire. Et dans cette Église-là, on le répète souvent à l'Église ici, des bons chrétiens, ça n'existe pas, il n'y a que Dieu qui est bon. Nous sommes des pécheurs graciés, puis c'est une lettre extraordinaire pour se rappeler ça. Et lorsque Paul arrive à la fin de la lettre, pour les encourager, il adresse une question qui était débattu un peu dans l'Église, qui était polémique dans l'Église, c'était la question de la résurrection. Imaginez une Église qui débat sur la question de la résurrection. Je vous dis pathétique, une Église qui débat sur la question de la résurrection et Paul veut les encourager dans l'œuvre de Dieu en les ramenant sur la résurrection. Alors voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Ce matin, nous allons voir ensemble que la mort n'est pas la fin. La résurrection est certaine. Vous ne travaillez pas pour rien dans l'œuvre de Dieu, bien au contraire. Premier élément, la fin n'est pas la fin, c'est certain. C'est absolument certain, la fin n'est pas la fin. 1 Corinthiens 15, 14, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Ce qu'on va voir ensemble dans 1 Corinthiens 15, 58, lorsqu'il parle du service dans l'œuvre de Dieu qui n'est pas vain, c'est un thème qui est en train de développer vers la fin de la lettre. Et il veut convaincre les Corinthiens que ça vaut vraiment la peine de s'investir dans l'œuvre de Dieu. Et donc, il commence avec cette idée de la résurrection. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. On a une religion comme toutes les religions de la terre, avec un programme d'amélioration personnelle, d'auto-rédemption, où tu vas travailler à expier tes fautes puis gagner ta place au ciel. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi dans la grâce est vaine. Parce que c'est sa résurrection qui est le sceau du pardon qu'on trouve en Jésus-Christ. Christ meurt sur la croix pour nos péchés. Dieu le ressuscite d'entre les morts. Ma foi en lui est justifiée. Je peux me reposer dans sa grâce. 1 Corinthiens 15, 19. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Alors là, Paul va adresser la question de notre résurrection. Si suivre Jésus-Christ est seulement une inspiration pour cette vie, honnêtement, on est les plus malheureux des hommes. Embrasser la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas embrasser une vie plus facile sur la terre. Je veux dire, Jésus n'a pas dit « embarquez dans mon petit yacht de plaisance, on s'en va dans le sud, dans les Caraïbes, se reposer. » C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « charge-toi de ta croix et suis-moi. » La croix, c'est un objet de crucifixion. Entre dans une certaine mort, pour découvrir la vraie vie. Alors, si notre espérance s'arrête à cette vie, si tu vis ta vie chrétienne à tous les jours, en cherchant les bénéfices de la foi chrétienne simplement pour aujourd'hui, en disant « aujourd'hui, je veux vivre un bonheur absolu, l'Évangile doit me servir à ça », il y a quelque chose de fondamental du christianisme qui manque. Suivre Jésus, c'est prendre une croix. Prendre une croix, c'est aller se faire crucifier. Je dois mourir à moi-même afin de vivre. Et donc, embrasser la foi, ce n'est pas embrasser une vie facile. Au contraire, c'est une vie qui va être remplie de défis. Et donc, ce que Paul dit, c'est si notre espérance est juste dans cette vie, mais ça donne quoi? Il y a d'autres religions qui t'offrent des vies plus faciles que celle-là, je te l'assure. Mais aucune qui va t'offrir la vie éternelle. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, hein, Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, donc vous l'avez crue, dans laquelle vous avez persévéré et par laquelle vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, si vous retenez le même message que je vous ai donné, si vous ne distorsionnez pas ce message-là, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, comme les Écritures l'avaient annoncé. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés et les miens et il est ressuscité d'entre les morts. La réalité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ est au cœur de l'Évangile. C'est l'Évangile. La réalité de la résurrection de Jésus-Christ doit être absolument évidente et réelle à vos yeux pour que vous puissiez vivre une foi qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Si c'est quelque chose de très irréel à ta foi, tu ne pourras pas vivre cette plénitude de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit qui est cette joie, cette paix, cette foi, cet amour, va toujours être en train de t'échapper. Tu vas t'accrocher à des choses parce que la résurrection de Christ est comme irréelle. Tu y crois, mais c'est plus dans l'espérance que dans une profonde certitude. Je comprends que c'est quelque chose qu'on saisit par la foi. Mais par la foi, je crois que mon épouse m'aime. Par la foi, je crois que je m'en viens servir ici à l'Église. Par la foi, je mets un pas en avant. Pas avec incertitude, avec certitude que le sol va me retenir. Est-ce que la résurrection de Christ est aussi claire et réelle pour toi que le sol sur lequel tu te tiens? Ou est-ce que c'est quelque chose où tu avances dans le noir en disant « j'espère, 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 j'espère ». OK, c'est bon. Et à chaque pas, il y a un pas comme d'espoir qui est là, sans réalité. La réalité de la résurrection de Jésus-Christ doit être absolument évidente et réelle à vos yeux pour vivre la foi dans la plénitude de l'Esprit. Et si vous dites, il me semble que je ne trouve pas dans le christianisme la joie, la paix. Je ne suis pas en train de dire une vie facile, hein? Je l'ai dit, porter une croix, il n'y a rien de facile là-dedans. Mais une paix qui transcende les difficultés de la vie, un repos qui dépasse les moments difficiles, une joie profonde qui, alors même qu'on est dans les larmes parce que les situations difficiles, notre cœur peut chanter des louanges comme un apôtre qui est en prison. Si ce n'est pas ton expérience de la vie chrétienne, il y a fort à parier que la résurrection de Jésus-Christ n'est pas réelle et tangible à ta foi. Il y a fort à parier que c'est un facteur déterminant. Si ta vie chrétienne est composée, tes semaines sont composées de la foi en Jésus, mais aussi de plein de petits succès d'année. Vous savez, c'est quoi un succès d'année? Hein? Quelque chose qui va remplacer du sucre. Vous avez des succès d'année, vous avez besoin de vos téléséries pour trouver le vrai repos dans la journée, ou plus triste encore, ça te prend ta coupe de vin pour pouvoir vraiment te détendre à tous les jours, parce que jamais tu trouves un véritable repos dans l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Et je suis pas en train de dire que ces choses-là sont mauvaises, vous comprenez? À leur place, elles sont excellentes, j'ai aucun problème avec ça. Mais ce ne sont jamais des remplacements, des succès d'années pour remplacer le repos, la paix, la joie, le bonheur. L'espérance que l'Esprit met en nos cœurs lorsque la résurrection de Jésus-Christ est claire à nos yeux. Toutes ces choses-là relèvent du domaine du loisir. Le repos est en Christ, en Jésus-Christ et dans la certitude de sa résurrection. Amen. Et peut-être que dans ton cœur, tu dis, c'est vrai que on dirait que la vie chrétienne, c'est bien, mais tu sais, c'est fade. Il faut mettre un peu de sel, il faut mettre un peu de sucre, il faut assaisonner ça. Si c'était juste la vie chrétienne, ça serait dry, ça manque de saveur. Il y a fort à parier. Je te donne une piste. Il y a fort à parier que la résurrection de Jésus-Christ n'est peut-être pas aussi tangible et réelle à ta foi qu'elle doit l'être. Il y a une sœur que j'ai rencontrée cette semaine qui n'est plus de cette assemblée puis qui m'a donné un des plus beaux encouragements qu'un prédicateur de la parole peut recevoir. Elle m'a dit, puis toute la gloire revient à Dieu, mais ça m'a vraiment encouragé, je vous le partage. Elle m'a dit, Yannick, ta prédication et celle d'un autre pasteur ont été des facteurs déterminants qui m'ont aidé à vivre chaque jour à la lumière de l'Évangile. Et je suis continuellement dans la louange, en train d'adorer Dieu. Et je sais que cette sœur-là n'a pas une vie facile. Ça m'a vraiment touché que Dieu nous accorde la grâce ici aux pasteurs de l'Église de l'Espoir. Parce que notre vision, c'est d'être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde la grâce de vous communiquer, de vivre ensemble en Église. la réalité de la résurrection de Jésus-Christ afin que Christ soit réel, tangible à votre foi tous les jours. Parce que le vrai repos se trouve là, la vraie joie se trouve là, en Jésus-Christ. Et si c'est des choses qui restent un peu obscures, vous dites, j'y crois, mais des fois j'ai des doutes, j'y crois, mais des fois j'ai des combats, il y a un vieux livre, je vous dirais, c'est une lecture obligée. La résurrection de Josh McDowell, où il fait une défense de la réalité de la résurrection de Christ sur un plan judiciaire. Comment historiquement c'est bien difficile d'en douter, même si c'est difficile d'y croire si on n'a pas la foi. Et donc, ça m'amène à dire ceci. La résurrection de Christ est certaine, mais ça veut dire que ta vie ne s'arrête pas ici. Votre vie ne se termine pas ici. Si Christ est ressuscité, notre résurrection vient aussi. 1 Corinthiens 15, 20 et 21. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices. Il est l'avant-goût. Il est l'éclaireur qui a ouvert la voie et qui dit « Suivez-moi maintenant ». Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, en Adam tous sont devenus pécheurs, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Notre résurrection à venir est aussi certaine que la résurrection de Jésus-Christ. Ta résurrection et la mienne, si tu as placé ta foi en Christ, est aussi certaine, c'est aussi solide que la résurrection de Christ. Il y a une expression qui, j'ai toujours de la discuter un peu avec cette expression-là, « The best is yet to come ». Ça fait un peu penser positive, puis mais ça dépend comment tu le vois, je vais m'expliquer. Parce qu'en fait, quand je deviens chrétien, dire « The best is yet to come », je veux dire, si aujourd'hui a été mauvais, vous allez voir, j'ai vraiment speech de motivation totale ce matin. Si aujourd'hui ça a été une mauvaise journée, tu n'as aucune idée si demain ne sera pas pire. Puis après demain, ça se peut que ce soit pire encore. En fait, ça se peut que tu partes dans quelques semaines emporté par une maladie. Je suis là pour vous encourager, c'est ça mon ministère. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que Jésus vient me chercher, j'ai aucune idée. Alors, j'ai toujours un petit peu de difficulté avec cette idée-là, « The best is yet to come ». Mais si ce qu'on veut dire par là, c'est qu'après la mort vient la vie, absolument, « The best is yet to come ». Ça se peut que ce soit de pire en pire, jusqu'à la mort, mais le meilleur reste à venir, dans ta résurrection, amen, dans ta résurrection. Je n'ai pas de promesse pour toi que demain ça va bien aller, que tu ne vas pas souffrir, que tout ne va pas s'effondrer, qu'il n'y aura pas une troisième guerre mondiale. Je n'ai aucune promesse de ça. En fait, Dieu nous dit, ça va s'empirer, les amis. Ça va être pas mal difficile. Si vous lisez un petit peu l'eschatologie, la fin des temps, ça va être rough, vous voyez. Mais oui, si je fixe les yeux sur le retour de Christ ou sur ma réunion avec Christ, the best is yet to come. Amen, amen, ça va, super. Mais voyez-vous, je ne cherche pas dans cette vie la jeunesse éternelle. Je ne veux pas me moquer de personne en particulier, mais peut-être un peu taquiner ce mouvement chez les stars, n'est-ce pas, qui commence avec les yeux comme ça, ensuite de ça, ils s'en viennent comme ça, puis après ça, ils finissent comme ça. Puis ils sont botoxés au maximum parce qu'ils cherchent la jeunesse éternelle. Puis tu dis, elle était belle pourtant, tu sais. Je l'aurais préférée vieillissante. Mais non, on cherche quelque chose qui est pas dans cette vie. Puis c'est triste de les voir aller. Ça marche pas. Personne n'y croit, tu comprends? Personne n'y croit. Il y a juste toi qui ne veux pas voir la réalité en face. Plus on vieillit, plus la beauté, je vous le dis, là, préparez-vous, les jeunes, plus la beauté doit être intérieure. La seule partie que vous pouvez vraiment améliorer, c'est l'intérieur. Je vous le garantis. L'extérieur, travaillez fort, essayez de rester en santé pour servir le Seigneur, peignez-vous, mettez un peu plus de maquillage, c'est correct. Mais je veux dire, la partie que vous pouvez améliorer, c'est l'intérieur. Ça s'arrête là. Et c'est absolument superbe. Allez parler avec un frère, une sœur qui vraiment s'est épanouie dans sa foi en Jésus-Christ. Je vous dis, c'est une rencontre qui fait tellement de bien à l'âme. Tu sais que tu es dans la réalité d'une vie qui est difficile parce qu'on vit dans un monde déchu. Et pourtant, tu vois la puissance et la beauté de l'Évangile dans un cœur qui s'épanouit de plus en plus en Christ. Je ne veux pas vivre la jeunesse éternelle. En fait, pour ma part, j'étais tellement insensé dans ma jeunesse que je ne voudrais vraiment pas vivre la jeunesse éternelle. Moi, je veux vivre la maturité éternelle. Et ça va se passer dans la vie éternelle avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, parce que vous ressusciterez, votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. C'est ça l'argument de Paul. Paul est en train de parler à une église qui est triste à bien des égards, qui a plein de défis, qui doit se repentir de mille et un péchés. C'est vraiment pas l'église modèle. T'sais. C'est pas là que tu envoies des pasteurs en formation pour apprendre c'est quoi une belle église. Non, c'est vraiment pas ça. Non. Puis Paul termine en disant, mes frères et sœurs, soyez fermes, inébranlables, travaillant sans relâche à l'œuvre de Dieu, parce que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien. Au contraire, le réflexe de l'Ecclésiaste de dire tout ça pour ça? Tout ça pour quoi? Ça donne quoi de travailler si fort? Voyez-vous, l'apôtre Paul voyait dans l'église de Corinthe peu de fruits spirituels. S'il y avait quelqu'un qui aurait pu juste dire, regardez, je vais aller implanter une autre église. Continuez votre party, je vais aller implanter une autre église à Corinthe qui va enfin écouter la parole de Dieu. On lit dans 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. » Il parle à des chrétiens, il parle à l'Église. « Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Je ne sais pas hein, si je viens vous dire ça un dimanche. « Comme à des enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. » Quand vous pensez qu'il n'y a pas de sarcasme dans les Écritures, là. « Car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Pas de fruits. Pas les fruits qu'il attendait à Corinthe. Paul aurait pu dire, mais ça donne rien. On va aller implanter une autre église l'autre bord de la rue, puis vous vous arrangerez avec vos problèmes. Mais non, Paul leur dit, tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, c'est jamais, 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 jamais semé en vain. Votre travail pour Dieu n'est jamais en vain. Toujours dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 10, j'aime ça, puis ça résume bien ce qu'on essaie de communiquer ici en Église, de vivre en Église, qui est vraiment ce focus sur la grâce de Christ. 1 Corinthiens 15, 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Le travail n'est pas terminé, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et ce n'est pas en vain. Alors Paul leur dit dans 1 Corinthiens 15, 58, « C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. » Je crois qu'une des choses qu'on doit apprendre pour vivre cette joie-là dans le service de Dieu, on doit apprendre à voir dans tout ce qu'on entreprend le service de Dieu. C'est comme si, dans mon intelligence, j'apprends à intégrer, c'est une manière de parler, hein, il est déjà là, mais il faut que je le voie, à intégrer la présence de Dieu quand je fais n'importe quoi. Et progressivement, quelque chose qui avant était une corvée devient un service pour Dieu, parce que Dieu ne gaspille aucune prière de ses enfants. Dieu ne gaspille aucune larme de ses enfants. Vous pouvez servir un employeur et ça se peut qu'il ne soit pas reconnaissant. Vous pouvez prendre soin de votre famille, servir votre famille, vous n'aurez jamais la reconnaissance méritée. Vous pouvez vous donner à fond pour votre conjoint, il y aura toujours un aspect d'ingratitude dans tout ça. Mais Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas ingrat. Et tout ce qu'on fait en donnant du temps, en donnant de l'énergie, en versant des larmes pour pleurer avec un frère, pleurer avec une sœur, en intercédant alors qu'on n'est plus là. J'ai plus envie d'intercéder pour cette personne-là parce qu'elle est constamment en train de retourner dans ses péchés. J'en ai assez de lutter dans la prière pour cette personne-là. Dieu ne gaspille aucune de tes prières, même celles que tu as l'impression auxquelles il ne répond pas. Jésus dit, si tu donnes juste un verre d'eau, est-ce qu'il y a quelque chose? Écoutez, on est quand même au Québec, un verre d'eau, tu sais. C'est pas compliqué. Tu donnes juste un verre d'eau au plus petit de mes enfants. Je le vois. J'en tiens note. J'en tiens compte. Et ce n'est pas en vain, parce que bientôt, très bientôt, on va aller rejoindre le Seigneur. On va être avec lui. Et la certitude de notre résurrection est là. La certitude de sa résurrection est là. Et donc, je veux t'encourager, si ça fait un an que tu cherches à marcher dans la vie chrétienne, je te le dis tout de suite, après l'exaltation des premières semaines, des premiers mois, surtout si tu as le genre de conversion que moi j'ai vécu, comme du jour au lendemain, ça a été un changement radical, fait que là, il y a une espèce d'illusion qui s'installe. Tu te dis, mon nouvel élan, ça va juste accélérer jusqu'à la mort. Puis là, tu te réveilles après 6-7 mois, puis tu te dis, « Hey, j'allais dans la prière, puis je lisais ma Bible pendant 1h30. Je regardais ma montre, puis je disais, ça fait 5 minutes. Là, j'ai de la difficulté à ouvrir ma Bible le matin, puis avoir le goût de... C'est quoi qui se passe? » Ou encore, tu es en train de découvrir l'Église, puis au début, hein, c'est le coup de foudre. « Wow, les chrétiens sont extraordinaires, sont chaleureux, ils sont aimants. » Jean-Élie, puis une « Hey, je veux juste vous dire, on est comme les autres églises ici. » Il y a un moment où vous allez déchanter un peu, vous allez dire, « Hey, je pense que c'est tous des pécheurs. » Je vais juste te le dire, l'Église va te décevoir, parce que l'Église est aussi là pour te rappeler qui tu es. L'Église va te décevoir, parce que l'Église est aussi là pour te rappeler qu'on est des criminels graciés, des pécheurs graciés. Et si ça fait 20 ans, 30 ans que tu es investi dans l'œuvre de Dieu et tu aimerais récolter des fruits de ça, pas nécessairement les honneurs, tu as de la maturité, puis tu dis, c'est pas que je veux un paquet de merci, je veux juste voir que ça donne de quoi, ça porte des fruits, je veux voir des conversions. Tu n'es pas en train de t'investir en vain dans le Seigneur. Parce que la certitude de la résurrection de Jésus-Christ est là. Et la certitude de notre résurrection est là. Dernier élément que je veux souligner, servez Dieu généreusement. Il faut que je vous raconte une petite anecdote, je vais être bref. Pendant que j'étais en train de méditer cet été, puis j'étais en train de prier, c'est évidemment le passage qui vient de ma version de la Bible que je me sers toujours, puis plusieurs d'entre vous, vous connaissez le petit chant, hein? Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, je ne le chanterai pas, je vous aime trop pour ça. Mais, fait que là, moi, j'ai dit, hey, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, c'est pas en vain, c'est génial. Là, j'étais parti, moi, je flyais. Si vous me connaissez un peu, je suis un gars au 1001 projets. Ça n'arrête pas, c'est juste que mon cerveau fonctionne juste en mode projet, vision, rêve, tout ça. Puis j'ai vraiment besoin de mettre un petit peu d'ordre dans ça. Puis bon, ça peut être assez essoufflant d'être à côté de moi. Là, j'ai dit, ah, travailler de mieux en mieux, pas de plus en plus, c'est génial, j'aime ça. Je vais revenir avec ça. Là, j'ai apporté ça à l'exécutif, au conseil, avec les leaders, c'est génial. Puis là, cette semaine, j'étudie le passage. Puis là, je m'en vais dans les autres versions de la Bible, puis partout, ça dit plutôt comme travailler avec abondance dans l'œuvre de Dieu, sans relâche, entièrement. Le mot grec qu'il y a là, c'est vraiment comme « mettez-y à fond la caisse ». Exactement le contraire de ma conclusion. Moi, j'étais comme « ben non, on va se concentrer ». Alors, je vous le dis, parce que je vais être honnête avec vous, puis j'étudie la Bible comme vous. Là, vous allez dire « ouais, mais là, si tu ne connais pas le grec, ça veut dire que ça sert à quoi de lire la Bible ?» Bien, je vais vous donner un petit truc très, très simple, d'accord? Bien, vous lisez votre Bible. Dieu vous parle par un passage. Continuez à méditer en allant lire d'autres versions de la Bible, d'autres éditions, en anglais, en français, en espagnol, peu importe la langue. Puis là, commencez à plonger dans le passage. Et Dieu va vous faire grandir dans ce passage-là. Parce que vraiment, ce que le texte dit, c'est « Donnez-vous de plus en plus à l'œuvre de Dieu. Soyez de plus en plus généreux dans le service pour Dieu. » Ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens, il dit « Écoutez, vous êtes venus à Christ pour en avoir les bénéfices. Mais vous ne réalisez pas que vous ne récolterez pas les bénéfices de l'Évangile tant que vous ne serez pas constamment en train de servir Christ. » Quand tu prends soin de ta famille, tu prépares un repas, tu nettoies la maison, tu fais ta comptabilité, tu sers quelqu'un au travail dans l'ombre. Grandir en maturité, c'est de plus en plus voir que je suis en train de servir l'œuvre de Dieu dans tout ce que je suis en train de faire. Et je le fais avec générosité. Alors Paul dit, servez Dieu généreusement. Soyez fermes sans vous décourager. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Notre résurrection est certaine. Sans vous décourager, soyez inébranlables dans votre foi. Croyez en lui. Je vous le dis, si vous avez besoin de petits bonbons pour assaisonner la vie chrétienne, parce que bon, c'est correct, ça va m'amener au ciel, mais disons qu'on a connu mieux pour avoir du fun sur la terre. Non, marcher dans la plénitude de l'esprit, c'est un fun. Tant que tu n'y as pas goûté, là, je te dis... Tu n'as pas consommé quelque chose de qualité. Mais quand tu as goûté à la plénitude de l'Esprit, au fruit de l'Esprit, ça, c'est une grâce extraordinaire. Et soyez généreux dans votre service. Grandir en maturité, c'est voir de plus en plus que toute ma vie, chacune de mes pensées, chacune de mes paroles, chacun de mes gestes peuvent servir à l'œuvre de Dieu et choisir d'entrer avec joie dans cette œuvre-là. C'est ça, grandir en maturité. Et il ne s'agit pas toujours d'en faire plus. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Autant que de savoir pourquoi je fais ce que je fais. Je veux faire tout ce que je fais pour la gloire de Dieu, pour la gloire de celui qui a donné sa vie pour moi. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, vous devez en faire beaucoup plus. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Si l'essentiel de ta vie est consacré à travailler pour avoir des loisirs. Si tu travailles la semaine pour avoir des longues fins de semaine de congé et être en loisir tout le long, boy, il y a une vie que tu connais pas qui est beaucoup plus excitante que ça. C'est celle de suivre Jésus-Christ. Alors peut-être que tu es appelé à en faire plus, mais je suis pas nécessairement en train de dire ça. Je suis en train de dire que grandir en maturité, c'est apprendre à faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Avec cette vision que je suis en train de servir Dieu et que ce n'est pas en vain parce que je le fais pour celui qui a donné sa vie pour moi, qui est ressuscité d'entre les morts. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, puis je vais vous partager une réflexion que j'avais avec une personne dernièrement qui vivait des questionnements dans sa foi. Elle vivait toutes sortes de questionnements dans sa foi, certains doutes, certaines luttes, tout ça. Puis en l'écoutant parler, j'en suis venu à conclure qu'elle expérimentait la foi chrétienne seulement pour aujourd'hui. Elle cherchait dans la parole des choses seulement pour cette vie ici maintenant. Puis la Bible nous dit de ne pas s'inquiéter pour demain, donc il faut vivre ici maintenant, faire confiance à Dieu. Ça, c'est concernant l'inquiétude. Mais concernant l'espérance, concernant la perspective du pourquoi, pourquoi je me donne comme ça? La Bible ne me dit pas « garde les yeux ici ». Elle me dit « garde les yeux sur le retour de Christ ». Parce que sa résurrection est certaine et la tienne aussi. Et voyez-vous, les gens comprennent ça. On comprend ça dans plein de domaines. Hein? Tu décides que tu veux te remettre en forme. Je l'ai dit, mes boutons avaient de la difficulté à s'attacher la semaine dernière. On travaille fort, ça s'en vient bien. Vous allez voir, ça va revenir. Mais vous savez quoi? Je ne peux pas m'arrêter à une journée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais en une journée, tu peux perdre puis prendre 5 livres d'eau. T'sais? Fait que faut que tu regardes un objectif à long terme. Je fais tous mes efforts aujourd'hui, mais je suis patient en regardant plus loin. On comprend ça dans tous les domaines. Tu veux apprendre un métier, tu veux élever tes enfants, tu veux apprendre à aimer ton conjoint, tu veux apprendre un instrument de musique, tu veux devenir bon dans un sport. Tu sais, je fais mes efforts aujourd'hui, puis je garde les yeux sur l'objectif. Et je parlais avec cette personne-là, puis je réalisais que dans sa vie chrétienne, la réalité de la résurrection de Christ et de sa résurrection, c'était totalement abstrait dans sa vie. Elle ne vivait la vie chrétienne que dans le « ici et maintenant ». Et si c'est le cas, il y a bien des souffrances qui viennent avec la vie chrétienne. Mais c'est parce que mes regards sont fixés sur le retour de Christ, j'ai la certitude qu'il est ressuscité d'entre les morts et que bientôt je serai avec lui moi-même ressuscité. Amen. La jeunesse éternelle, elle m'est promise. Après la mort, la jeunesse éternelle m'est promise avec un arbre merveilleux dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la vie éternelle. Frères et sœurs, j'espère que ça vous encourage. Tout ce que vous donnez pour Dieu, en énergie, en temps, en argent, en prière, en larmes, en écoute, il n'y a rien de ça qui est fait en vain. Parce que Dieu n'est pas ingrat. Dieu est bon. Et parce que nous avons la certitude que notre vie ne s'arrête pas ici, mais bientôt, très bientôt, nous serons réunis avec lui pour l'éternité. On va prier ensemble. On va préparer nos cœurs au repas du Seigneur. Seigneur Jésus, tu es ressuscité. Seigneur, tu es ressuscité d'entre les morts. Ta parole le dit. Tous les faits sont là pour mettre au défi celui qui ne croit pas. Et ton esprit, Seigneur, le dit à tous ceux qui sont en toi, Jésus. Et Seigneur, j'ai su et j'ai connu, j'ai cru que tu es mort sur la croix pour mes péchés. J'y ai savouré la grâce de savoir que je n'avais pas à essayer de gagner mon ciel, de savoir que ton amour pour moi n'était pas conditionnel à mes perfections, mais que les perfections de Christ m'étaient appliquées, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour mes péchés et tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es le Fils parfait. Jamais indigne, toujours faisant la volonté de ton Père. Et tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur, tu es les prémices. Bientôt, très bientôt, je serai avec toi, Jésus. Bientôt, très bientôt, toutes les souffrances de cette vie cesseront. Toute larme sera essuyée. Et Seigneur, donne-nous à l'espoir de voir chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, la manière d'occuper notre temps, comme une œuvre qui n'est pas vaine, mais une œuvre qui te plaît, une œuvre qui te glorifie, parce que tu as donné ta vie pour nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.